Bonsoir. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a appelé lundi 6 septembre tous les acteurs de l'Ituri à la solidarité active pour les succès de l'état de siège. Devant la presse à Bounia, Madame Bintou Keïta a aussi réaffirmé le soutien de la mission onusienne aux forces armées de la RDC dans les opérations de traque contre les groupes armés qui endeuillent cette province. Pendant ce temps, le trafic entre Komanda et Luna sur la nationale numéro 4 dans le sud du territoire d'Irumu en Ituri est officiellement suspendu depuis samedi 4 septembre dernier. Dans un communiqué de presse rendu public le même samedi, les autorités locales ont justifié cette décision par la dégradation de la situation sécuritaire sur ce tronçon où des rebelles ADEF multiplient les attaques contre des civils et l'armée. Quelle lecture faire de l'évolution de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 7 septembre 2021. Participe au débat Gracien de Saint-Nicolas Irachan. Il est député national élu de la ville de Bounia au sein du regroupement politique Mouvement Social, MS en sigle. Ce parti est membre de l'Union Sacrée de la Nation. Gracien de Saint-Nicolas Irachan, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Dieudonné Lossa, coordonnateur provincial de la société civile de l'Ituri. Monsieur Lossa, bonsoir.
Bonsoir, nous saluons tous les co-débatteurs ainsi que les auditeurs.
Mohamed Boulé, député national et ancien vice-ministre de la Défense. Il est général à la retraite et expert sur les questions militaires. Mohamed Boulé, bonsoir.
Bonsoir, je salue en même temps mon collègue Irachan et ainsi que M. Lossa et tous les auditeurs qui vont nous suivre.
Merci. Vos nombreuses réactions, nous les avons reçues. C'est notamment celle de Maître Claude Kaunga depuis Bukavu Sud Kivu, tant que l'impunité continuera à régner au sein de l'armée et dans les institutions de la République, l'Est de la RDC ne retrouvera jamais la paix. Jonas Vouendoua, Théophile, au Sud Kivu, les intervenants dans ce domaine ont toutes les stratégies pour faire face aux rebelles, mais les bonnes stratégies ne sont toujours pas mises en marche. Même certaines autorités congolaises et civiles collaborent avec les ennemis de la paix. C'est inconcevable. Toute une nation comme la RDC a mis plusieurs moyens dans la lutte contre ces miliciens, mais rien n'a été fait jusque-là. Nous sommes fatigués. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Radio
Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
En Ituri, une trentaine d'éléments de la milice Codeco ont été neutralisés hier et 10 armes récupérées. C'est au cours des opérations militaires menées par les FRDC contre cette milice dans le centre commercial de Kobu dans le territoire de Djougou. La situation sécuritaire demeure également préoccupante dans les sud du territoire d'Irumu. Le porte-parole de l'armée en Ituri invite la population à soutenir les FRDC au lieu de discréditer le gouvernement et son partenaire, la MONUSCO, pendant cette période où des efforts doivent être mutualisés pour restaurer la sécurité sur toute l'étendue de la province. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Hier lundi, un groupe de miliciens de la Codeco avait attaqué une position des militaires des FARDC installée au centre de Kobu. Ces inciviques ont tenté en vain de déloger les forces loyalistes de cette entité. La réplique des FARDC s'est soldée par la neutralisation des 34 assaillants et 18 autres blessés. L'armée indique que cette milice ainsi que les rebelles des ADEF qui opèrent en province harmonisent leurs attaques dans le but de déstabiliser les dispositifs sécuritaires mis en place par les forces loyalistes. Malgré cette astuce, les militaires des FARDC ne vont pas fléchir, déclare le lieutenant Jules Ngongo.
Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Et lorsque nous nous engageons pour terrifier l'ennemi, et vous allez voir, ces CODECO qui attaquent. Il y a une mise en commun des actions que mènent les ADEF, en même temps les actions que mènent les CODECO.
Par ailleurs, le trafic sur la RN4 entre Komanda et Luna, qui mène vers les Nord Kivu voisins, reste suspendu. C'est à cause de la situation sécuritaire précaire dans cette zone où des rebelles des ADEF ont multiplié des attaques contre les convois des véhicules des transporteurs en commun. Entre-temps, les autorités coutumières ainsi que les forces vives du milieu s'inquiètent du sort de plusieurs habitants éparpillés dans la brousse. D'autres seraient toujours entre les mains de ces rebelles, selon la société civile. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Merci Ezekiel Muzalia pour ce reportage. Gracien de Saint-Nicolas, Irachan, je rappelle que vous êtes député national élu de la ville de Bounia au sein du regroupement politique Mouvement Social, MS en sigle, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Quelle lecture vous faites de l'évolution de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri?
Évidemment, la situation sécuritaire n'est pas encore tout à fait sous contrôle de nos forces gouvernementales, parce que c'est vrai qu'il y a des avancées plus ou moins que nous sommes en train vraiment d'apprécier, mais il y a beaucoup de choses à faire, parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe au Nord Kivu comme à Ituri, ce sont des dossiers actuellement qui sont vraiment très très mal maîtrisés au niveau sécuritaire, parce que vous savez que la situation des massacres qui a commencé au Nord Kivu après qu'il s'est étendu vers l'Ituri a commencé depuis 2014. Et donc la situation pour le moment, elle est au niveau de la population, au niveau de tous les recoins de ces deux provinces-là. Et donc ce n'est pas facile évidemment de pouvoir démanteler tous ces réseaux qui sont en train de s'attaquer à nos forces gouvernementales et à la paisible population. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit mutualiser les efforts. Et là, j'insiste toujours que le travail que nous faisons, en fait, on devrait respecter la part de toute institution ou toute organisation gouvernementale qui intervient pour donner des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a que l'armée qui doit rétablir la paix. Ce n'est pas seulement l'armée. Il faut comprendre qu'il faut, à côté de l'armée, il faut que la police soit là, parce qu'on voit parfois des positions avancées des FRDC, mais parfois des FRDC qui sont obligés de jouer aussi les rôles de la police dans les positions qui ont été reconquises. Il y a aussi les renseignements qui est vraiment des aspects non négligeables au sein de l'armée. Mais en plus, il faut respecter aussi d'autres institutions qui interviennent indirectement, comme la justice, donc les ministères de la justice, les gouvernements à travers les ministères de la justice. Il faut respecter des institutions comme l'Assemblée nationale, qui fait aussi son travail, donc, et aussi la société civile, tout comme la notabilité. Donc ce sont des forces qui ne peuvent pas passer inaperçues. Donc nous sommes d'accord qu'il faut mutualiser les efforts, parce qu'il y a encore beaucoup à faire sur le terrain. Sinon, on n'aurait pas parlé de tous ces morts qu'on a enregistrés les trois derniers jours ici. Vous savez qu'il y a 30 personnes qui ont été tuées. En plus de cela, il y a eu l'attaque contre les convois militaires. Donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Mais ce que nous déplorons est tout simplement le fait que nous avons suivi les témoignages d'une femme rescapée qui affirme parfois qu'il y a eu attaque, et on a vu des gens qui parlaient la langue rwandaise, et on a vu des enfants et des femmes qui accompagnaient des hommes des troupes. Et là, ça veut dire tout simplement qu'il y a des positions militaires ou des groupes armés qui existent et qui ne sont pas, en tout cas, attaqués. Parce que quand les enfants doivent se déplacer pour retrouver, pour pouvoir transporter des butées de guerre, quand les femmes doivent se déplacer, ça veut dire qu'il n'y a pas des offensives comme telles contre ces groupes armés. Donc nous sommes en train toujours d'appuyer notre gouvernement à travers les FRDC à pouvoir aller vers l'ennemi, à pouvoir faire des offensives contre les groupes armés.
Gracien de Saint-Nicolas, Irachan, ces deux dernières semaines, je dirais même trois dernières semaines, la situation sécuritaire s'est quand même dégradée dans la province de l'Ituri. Cela pourrait être dû à quoi, selon vous?
Bon, c'est qui est vrai, la situation sécuritaire s'est dégradée, comme on le sait. Mais il y a aussi des travaux, des réformes qu'on a engagées au niveau du gouvernement. Mais l'ennemi que nous sommes en train de combattre, ces groupes armés, pour le moment, ils sont très très mobiles et ils sont en train de chercher de chaque fois, de chercher des stratégies pour démobiliser nos troupes congolaises. Vous avez vu par exemple, à un moment donné, ils ont commencé à montrer des images vraiment qui ne fallait pas des images d'atrocité qu'ils étaient en train de montrer sur les réseaux sociaux pour chercher à démoraliser nos troupes. Mais quant à cela, nos troupes ont pris, ils n'ont pas pu, ne se sont pas laissés démoraliser, mais ils ont continué à aller vers les fronts. Et donc, ils sont en train de chercher à changer toutefois des stratégies pour chercher à contrecarrer. Mais quand vous voyez les différentes réalisations de l'armée, pour le moment, on sent que ces groupes armés sont en position de faiblesse et cherchent à se réorganiser. Mais malgré cela, il y a encore des efforts qui doivent être faits au niveau de l'armée. En fait, ils sont devenus tellement mobiles parce que vous vous souviendrez que maintenant, il y a la coalition entre les FRDC et la MONUSCO. On a rééquipé encore nos militaires, mais il y a aussi d'autres instruments de guerre qui sont en train de servir comme des drones pour des renseignements. Et donc, il y a quand même un effort qui est fait et qui fait en sorte que l'ennemi est obligé de changer de tactique. Mais malgré cela, ils sont en train de tuer pour montrer qu'ils sont en train d'exister. Mais quand vous voyez des fonds, en fait, pour le moment, leur force est contrecarrée et qui sont vraiment à débandade.
Le trafic entre Komanda et Luna sur la nationale numéro 4 a été suspendu à cause de la dégradation de la situation sécuritaire sur ce tronçon où les rebelles ADF multiplient les attaques contre les civils et l'armée. Pensez-vous que c'est une bonne décision prise par les autorités provinciales?
Oui. Alors, la situation de la circulation entre au niveau des RN4, effectivement, ça pose un problème. Nous, pareil, nous, on n'était pas d'accord dès le début, parce que quand vous voyez un peu sur la RN27, quand on a expérimenté ces affaires de convois, ça n'a pas marché, parce qu'on a trouvé qu'il y avait plus de centaines de véhicules qui pouvaient être au même moment en train de voyager, et qu'on ne pouvait plus contrôler les milliers de ces convois-là. Et donc, ça a montré des limites, mais aussi il y avait des véhicules en panne, qui ne pouvait plus être contrôlé parce qu'il fallait qu'on les détache des convois. Donc, ça avait montré ses limites et donc les résultats des convois en Ituri étaient négatifs. Et on devait donc, pour la RN4, appliquer les mêmes principes. Il fallait qu'on voit qu'on ne peut pas continuer avec ce système de convois parce que ça a montré ses limites. Parce qu'avec les longs véhicules que nous avons, les longs convois, on ne peut pas tout contrôler. Donc, on va toujours assister à des embuscades. Ce qui est important, c'est de pouvoir accélérer avec des offensives sur terrain et pouvoir installer des différentes positions militaires sur les tronçons, sur la RN4 entre Luna et Komanda pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir contrôler tous les mouvements de ces gens-là qui quittent la bourse. Mais avec les convois, ça va toujours être compliqué.
Dieudonné Lossa, vous êtes coordonnateur provincial de la société civile de l'Ituri. Comment vous analysez l'évolution de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri?
Je vais remonter à partir du 29 août 2021, où 11 AFA, dont l'âge varie entre 9 et 17, ont été kidnappés par ADF Nalu jusqu'à nos jours. On ne connaît pas leur destination. Il y a eu attaque le 1er septembre à Ofai, dans le village Kachini, où 16 véhicules ont été incendiés, 4 civils tués par ADF Nalu. Le 2 septembre, 2 personnes ont été tuées et 2 motos incendiées, avec 6 personnes portées disparues à Polumumu jusqu'à ce moment. Du 3 au 5, il y a eu 30 civils assassinés, dont 14 femmes par ADF Nalu dans le village Luna Samboko et Ichilembia, Kiboma, Kui. Le 4 septembre, 3 maisons incendiées à Ndalia par les mêmes groupes armés, donc les rebelles de ADF Nalu. Le 5 septembre, assassinat de préfet de l'Etiti Rutahaba et un enfant dans la chefferie de Bahema Mitego à Bourassi, et 3 personnes blessées, et tous c'était des enfants, avec 180 vaches pillées par les éléments de FRPI. Le 6 septembre, assassinat par des économies.
Dieudonné Lossa, le bilan que vous dressez, c'est pour montrer à quel point la situation sécuritaire s'est dégradée dans la province de l'Ituri.
Je pense qu'il faut faire un état des lieux de la situation sécuritaire. C'est ça même la question qu'on est en train de traiter. Le 6 septembre, assassinat d'un homme à Komanda à proximité des cas de la MONUSCO. Entre 3 et 7 septembre plutôt, il y a eu suspension des trafics routiers entre Komanda et Luna. À ce moment, il y a plus de 153 véhicules, voitures et camions remorques arrêtés à Komanda avec beaucoup de populations qui ne savent pas trouver à manger, qui ont des difficultés à ce moment pour dormir. Et ça veut dire même d'autres personnes qui passera par commande ne saura pas où dormir. Le 6 septembre 2021, attaque des positions de FARDC à Kobu par Kodeko, dont le bilan selon armée est de 34 miliciens neutralisés, 18 autres blessés. Cette attaque a fait déplacer plusieurs populations autour de Kobu, autour de Bambou, qui ne savent pas non plus accéder aux soins de santé primaire, qui manquent à manger. Et là, vous allez aussi vous imaginer le sort des enfants ainsi que des femmes ascètes. Dans notre, c'est vrai, Monisco venait de demander à ce qu'il y ait mutualisation des forces. Nous sommes d'accord avec Monisco. Nous pensons que c'est même ça l'approche qu'il fallait depuis tout ce temps-là. Mais il n'y est pas. Personne ne sait, n'a oublié que depuis plus de 20 ans, Monisco est en Ituri et Monisco est en RDC. Où nous avons des nouveaux groupes armés comme Codeco, comme FPIC, qui ont moins de 5 ans, moins de 10 ans d'existence. C'est FRPI seul qui a été avec Monisco depuis la naissance de leur arrivée ici, Monisco, jusqu'à nos jours. Et à ce moment, il y a multiplication, n'est-ce pas, des groupes armés dans le territoire du Rumu, d'Enjougou, Mambasa, d'Enjougou. Nous avons le cas de Wanyabusha. Aujourd'hui, que la population de Irumu est en train d'appeler les Hutus rwandais. Ils sont à connivence avec Nalu. Au moment où nous vous parlons, et je crois que nous l'avons déjà décrit.
Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves qu'ils sont en connivence avec ADF Nalu? C'est juste des rumeurs qui se répandent comme ça dans la province.
Ce n'est pas des rumeurs, madame. L'honorable venait de le dire. Et rescapé de l'attaque de Kovoa a témoigné que ceux qui sont venus piller les histoires pour aller le Kinyarwanda. Et puis la population de Wanyali Chabi, ils sont témoins de ce qui s'est passé. Ce sont ceux qui ont confirmé cette information, qui continuent à dire qu'à ce moment où nous vous parlons, sa chefferie de Wanyali Chabi est occupée par Wanyabusha.
Dieu donné l'eau à cette dégradation, oui, de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, c'est réduit à quoi selon vous?
Madame, nous avons toujours dit que les groupes armés, là où leurs positions sont connues, et la population, quand elle donne les informations, souvent ces informations ne sont pas prises en considération. Donc les groupes armés, la population montre là où ils se trouvent, et le fait qu'on ne les inquiète pas, ils sortent de leur position pour aller commettre des forfaits. Nous croyons que les opérations qu'on attend de notre force avec son allié, la Monisco, c'est de traquer ces groupes armés, c'est de les poursuivre partout où ils sont. N'est pas attendre que les rebelles ou les groupes armés attaquent pour toujours venir à défensive.
Est-ce que ce n'est pas ce que l'armée est en train de faire en ce moment? Plusieurs assaillants, plusieurs miliciens ont été neutralisés.
Nous reconnaissons que plusieurs, selon les formations qui nous sont parvenues par la trémise des porte-parole de FADC, 34 éléments de Codeco étaient neutralisés. C'est une bonne information, mais seulement après que les Codeco aient attaqué les cas de FADC. S'ils n'attaquaient pas les cas de FADC, ils ne pouvaient pas être poursuivis. Donc, il n'y a pas d'offensive, il n'y a que des défensives. Or, c'est ce qui donne la force, car maintenant, là, on les a traqués, n'est-ce pas? Ils se sont dispersés. On va les laisser se réorganiser et revenir attaquer de nouveau la position où se trouve le FADC. Ou bien attaquer, ou brûler ou tuer la population pour que le FADC vienne. C'est comme ça que les cycles de violence ne s'arrêtent pas à Ituri.
Mohamed Boulé, député national et ancien vice-ministre de la Défense, vous êtes général à la retraite et expert des questions militaires. Mohamed Boulé, votre lecture sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri.
Merci, j'ai suivi tous les intervenants. J'ai beaucoup entendu de certaines affirmations. Je voudrais pas, de ma part, faire l'amalgame. Je souscris, je me retire dans l'Ituri. Et dans l'Ituri, particulièrement dans les territoires de Djougou, avec ses 8184 km², avec ses chefferies Bahema, Bajere, Bahema Bonyagi, etc., jusqu'à Walendu Tachi, où on a même cité des chefferies ou secteurs. Et aussi, Irumu avec ses 8730
km². C'est ça l'épicentre, la zone d'action où les militaires, les gouverneurs militaires devaient centrer ses efforts. J'ai entendu parler des offensives, des défensives. Utilisons les termes et les concepts tels que nous les comprenons dans le sens purement militaire. Mais je n'ai pas entendu la dénonciation, parce qu'il y a ces chefferies, d'autres en 6, 3, 12 groupements, 8 et ainsi de suite. Faute de temps, je ne vais pas énumérer ça. La contribution ou la collaboration avérée de ces groupements, de ces villages, pour donner les formations en temps réel. Et aussi, parce que je refuse de croire, moi-même, 38 ans à l'armée, dans cette zone-là, autrefois, les combats dans la jungle, il y a des normes. On ne peut pas quitter, les rebelles ne peuvent pas quitter là-bas pour venir attaquer s'ils ne sont pas près de l'objectif. Les marches de nuit et tout ça, et les matériels qu'ils ont, et ils sont... Mais ici, on donne même les informations à ceux-là qui nous suivent pour dire, voilà, on a parlé des drones et tout ça. Non, non, non. Il y a un problème. Parce que si, autrefois, l'ADF, ce n'est pas la peine d'aujourd'hui, la création depuis l'Ouganda, ça date de très longtemps, il y a beaucoup de cultures dans ce sens-là sur les réseaux sociaux. Une fois-ci, on avait le problème de Mbororo qui ne rentrait pas dans ce cadre-ci, parce que là aussi, ça pose problème. Mais je me suis rendu compte qu'en 48 heures, j'ai téléchargé plus de 1800 documents écrits sur les problèmes de Mbororo et les RAE, etc. Et aussi, ce qui concerne les ADF finales. C'est vrai, mutualiser. Nous avons raison. Le MONUSCO a raison de dire ça. Mais notre pays, après l'ONU Congo, MONUC depuis le 4 mai 2000, ça fait 21 ans, avec ces reconductions-là, ça devient MONUSCO aujourd'hui, mais ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, et nous sommes dans beaucoup d'organisations internationales, universelles, et régionales, SADC et COMESA, autres, mais nous ne sentons pas la communauté internationale s'investir pour dire ça va mal en République démocratique du Congo, il faut les aider. 21 ans qu'on ne règle pas les problèmes. Je suis en train de m'interroger.
Oui, pourquoi selon vous, Mohamed Boulé, pourquoi la RDC n'arrive pas à trouver une solution sur la problématique de l'insécurité dans l'est de la RDC?
Il faut les moyens budgétaires et financiers pour former. À un certain moment, lorsque la RDC, sous une autre époque, était la fâcherie des superpuissances, parce que la RDC était entouré de pays satellites à l'Union soviétique, peu avant que cette guerre froide ne se termine. Ne disons-nous pas que tous les pays, je peux me permettre de les citer, mais je m'interdis de le faire. Et on craignait que l'Union soviétique ne prenne pied en Afrique. Nous étions choyés, nous étions bénéficiaires, nous étions éligibles par une superpuissance pour nous donner ce qu'on appelle FMS. C'est avec ça qu'on a acheté des avions 630 et autres. C'est avec ça qu'on a formé des officiers dans des grandes écoles. C'est avec ça qu'on a créé le centre d'entraînement commando de Kitona. Pardon, de Kotakoli et le centre de Kitona. Mais autrefois, avec ça, avant 1990, mais je me rappelle avec Félix Mbouzamabé, paix à son âme, mais nous avons passé paisiblement des nuits là-bas à Mutuanga, dans le village de Mbusanyamusi, à Lume, tout ça, il n'y avait pas de ces problèmes-là. On avait maîtrisé. Et les lacs verts coulaient là-bas, on se contactait de cela. Mais maintenant, avec l'avènement de l'ASPL, nous sommes restés comme un léopard, sans ses canines, sans ses griffes, seulement avec son pelage. On nous a tout pris, l'armement, l'arsenal que nous avions ici. Mais la communauté internationale, ceux qui ont les droits de veto, ce sont eux qui dirigent, non? Parlons-en. Et donc, on ne peut pas dire que nous allons. On sait que nous sommes en... Il y a des pays africains qui produisent des armes et des petites munitions de guerre, qui les vendent la traçabilité des armes légères de petit calibre, et la MONUSCO le sait. Pourquoi on n'aide pas la République démocratique du Congo à faire ça? Hier, on parlait des concepts minerais des sangs. Aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? Mais on fait donc du Congo, il faut prendre. C'est ça le problème.
La communauté internationale soutient la RDC. La MONUSCO, par exemple, elle accompagne les FRDC dans les opérations des traques contre les groupes armés.
Non. Je vois les images. Lorsque la MONUSCO arrive là-bas, comme une promenade de santé, on voit les véhicules incendiés. Et puis, on voit même pas les gens en position vraiment prêts à intervenir. Et aussi, on a fait des victimes. Mais c'est comme ça que les gens se disent, mais on nous accompagne. Ceci arrive. On a des drones qu'on a annoncés ici. Pourquoi est-ce que cela arrive? Ces gens, ils sont dans la population. Parce que quelqu'un ne peut pas faire dans cette... Je connais, j'ai été à Bounia à une certaine époque. Je connais, j'ai passé mes nuits à Komanda. J'ai été à Nyankunde. Partout, j'ai parcouru là-bas après qu'on ait tué 6 membres de CICR. Les frères même des humanitaires. Oisha même était là. Et nous avons repris les contacts et tout ça pour sécuriser et rendre ces voies-là à la mobilité. C'est ce que nous ne vivons pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui devrait être fait qui n'est pas fait. Maintenant, il y a une menace, il y a des menaces émergentes. Mais face à ces menaces-là, il faut décrire leurs caractéristiques et leurs descriptions.
Mohamed Boulay, qu'est-ce qui devrait être fait pour éviter ce genre d'attaque, ce genre de surprise?
Parce que nous sommes membres de ces organisations. Il y a des pays qui ont dit que nous sommes éligibles et qui venaient pour nous assister. Mais qui reprennent d'elles bien pour que nous puissions organiser notre armée, former et continuer à terminer cette réforme. Et aussi ce que la population dit. C'est bien vrai parce que c'est au Conseil supérieur de la défense de prendre certaines mesures. Il y a des unités qu'on devrait déplacer. Pendant la transition, je suis témoin de la déclaration de certains officiers de ces monoethniques de ces coins-là qui disaient que non, nous ne pouvons pas quitter ici parce que nous devons sécuriser nos frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant qu'ils sont là contre tous ces frères, ces tantes et tout ça et que rien ne soit fait? Mais nous avons le pire donc dans nos pieds et donc ce problème-là, la communauté internationale sait, je le souligne, et donc la communauté internationale n'est pas prête pour nous aider. Pourquoi ça? Mais c'est cela. Nous n'avons pas la capacité d'ailleurs d'avoir, à travers notre budget, d'acquérir tous ces matériels-là. À une certaine époque ici, on pouvait bien aussi devenir des fabricants de munitions de guerre. Un pays africain est venu ici qui a une forte expérience pour dire, vous avez les cuivres, pourquoi est-ce que vous devez commander les munitions de petit calibre à l'air alors que vous pouvez les fabriquer ici? Les cartouches, on pouvait les faire à partir du Katanga. Mais ça n'a jamais eu parce que ce sont les superpuissances qui ont leur droit de veto, qui décident. Là, non.
Merci, Mohamed Boulay. On va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler sur notre standard. Gracien de Saint-Nicolas, Irachan, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud Kivu. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, tout comme d'ailleurs dans tout l'est de la RDC, ne cesse de laisser à désirer, ne cesse de se détériorer du jour au lendemain. Apparemment, malgré l'état de siège mis en place dans cette partie du pays, le gouvernement congolais n'arrive pas à maîtriser cette situation. Il faut nécessairement un véritable appui extérieur au gouvernement congolais pour que celui-ci puisse y mettre un terme. C'est ici que le soutien onusien dont parle Madame Bintou Keïta aux forces armées de la RDC devrait être concret et réel sur terrain.
Gracien de Saint-Nicolas, réaction.
Notre auditeur, il a raison de parler de l'appui extérieur, mais tant que nous, attaqués congolais, nous ne savons pas mettre de l'ordre dans nos affaires internes, on ne saura pas aller de l'avant. Je donne l'exemple de la situation de l'Ituri où en 2003, il y a eu les forces Artemis qui sont arrivées, les forces françaises qui ont pratiquement remis un peu de l'ordre, ils ont arrêté avec les massacres, mais quand ils sont partis, ces mêmes hostilités reviennent aujourd'hui. Donc, nous allons calmer, mais les vraies solutions devraient venir de l'intérieur. En fait, les le problème, c'est aussi la responsabilité des autorités du gouvernement, mais aussi, je dirais, les hommes d'État. Et ça, c'est le mal au Congo et que nous mettons trop de flatterie dans ce que nous faisons comme dossier et nous mettons trop de légèreté dans les dossiers que nous sommes en train de traiter. Il y a beaucoup de dossiers où on ne touche pas les fonds. Je commence même par l'Assemblée nationale où je suis en train de siéger. Où vous trouvez qu'il y a des dossiers qui sont sans pouvoir toucher les fonds du problème. Et tant qu'on va commencer à flatter l'autorité, on va commencer à plaire aux autorités, on ne va jamais évoluer comme un pays normal. Là où il faut sanctionner, il faut sanctionner. Il ne faut pas mettre des complaisances. Là où il ne faut pas mettre. Donc, on veut des forces. Et je voudrais aussi ajouter qu'il y a aussi effectivement la diplomatie internationale qui n'est pas à négliger. J'ai rencontré des diplomates occidentaux à Lubumbashi la semaine passée, mais c'est vrai que vous avez déstabilisé aussi la RDC parce que vous ne voulez pas donner de solution concrète. Parce que nous, quand on était des Congolais sans colonisation, on était quand même libres avec notre civilisation. Mais maintenant que le monde nous a amené la civilisation, il faut que ce monde nous garantisse aussi des stabilités parce que nous, on ne connaissait pas les minéraux. Mais aujourd'hui, nos minéraux deviennent des objets, des convoitises et ça déstabilise la population, ça tue nos autochtones.
Dieu donnez-nous ça. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia.
Ingénieur Patrick Rouvalé depuis la ville de Bounia dans la province de l'Ituri. Une grande inquiétude de la population iturienne pendant cet état de siège. Comment se justifie la présence des ADF aux alentours de RN4 jadis ouest de la route? Comment comprendre l'attaque de la population par les rebelles contre plus de 10 équipes, tuerie et enlèvement de la population sans une intervention rapide pour stopper les agressions de rebelles contre la population insoumise. Les attaques à répétition contre la population civile et ce dieu jouent négativement sur l'économie de la population de ce coin, du pays qui s'approvise jour au jour. Nous demandons la restitution des fonds de terrain par certains officiers RDC après justice rapide pour vaincre les offensives militaires contre les rebelles dans ce déprouvesse de l'état de siège. Nous demandons la rapidité dans l'intervention militaire pour sauver la population au cas de danger pour éviter des dégâts énormes. Enfin, l'élasticité des offensives militaires contre les rebelles fait que ces derniers se préparent dans leur bastion pour attaquer ensuite l'armée et la population.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de cet auditeur qui nous a appelé de Bounia, ingénieur Patrick Rouvalé. Dieudonné Lossa, qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Patrick Rouvalé?
En tout cas, je pense que Patrick a tout à fait raison. Il est inconcevable, par exemple, l'attaque des convois sous l'escorte de MONUSCO et FARDC, où il y a plus de 16 véhicules. De 16 véhicules ont été incendiés, avec des populations civiles tuées. Ce n'est pas possible. Alors que on a tué les populations civiles, aucun élément de ADF n'a été neutralisé. Aucun n'a été capturé. Ça peut pas plaire à la population. Et ces tronçons, je disais, ça ne faisait pas longtemps qu'on avait déjà incendié plus de 10 véhicules dans ces tronçons. On a assassiné plusieurs personnes dans le même tronçon. Il n'était plus possible d'attendre, d'imaginer qu'encore, date du premier, qu'on puisse encore revivre la même scène. Donc la population se pose la question si réellement la MONUSCO elle-même, qui représente la Nations Unies en RDC, et particulièrement en Ituri, comprenne et valide ces interventions. Si réellement elle valide ces interventions, je pense qu'elle pouvait déjà dire que soit elle n'a pas réussi la mission, soit et elle change la manière de faire, parce que ça ne peut pas s'expliquer. Mais aussi, les opérations militaires. Nous avons toujours dit la population a dénoncé. Et là, je réponds même au même moment à l'honorable Boulé, dans ces tronçons, la population a dénoncé. La population vous dit que, d'ailleurs, avant même l'attaque de convois, il y a 4 jours avant, la population avait informé que dans la zone, on est en train de voir les hommes en armes. La population a alerté. Mais toutes les informations, je l'ai dit tantôt, les informations que la population donne, l'armée et les services de sécurité ne la prennent pas en considération. Les services ont leur manière de faire les investigations, mais quand la population informe, on ne donne pas l'importance à ce que la population a dit. Malheureusement, c'est que le mal arrive. Ce qu'on doit craindre, le pire arrive. Et voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Ça veut dire, même au CDFARDC, le chef de l'État, quand il est passé ici, il a parlé de Magui. Le chef de l'État, quand il est passé ici, il a dit, et on a, après son passage, on a dit arrêter certains officiers pour avoir donné des faux effectifs de militaires à Ituri. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi s'interroger qui sont les militaires qui étaient dans la position ce jour-là entre Luna et Commanda? Parce que ce n'est pas seulement les gens qui convoient les véhicules qui sont sur cette route. Il y a des positions des militaires FARDC. On pouvait s'informer auprès de qui étaient ces militaires qui étaient là et comment on est arrivé à cette situation. Je crois que la population, à mon humble, a vraiment raison. Et tant que cette zone restera comme ça, libre comme ça, je crois, même la population qui est aujourd'hui à Komanda, elle est à danger permanent. Et je disais ici, il y a plus de 153 véhicules.
Qu'est-ce qu'il faut pour la sécuriser? Qu'est-ce qu'il faut pour sécuriser cette population?
Il faut installer immédiatement l'état-major général à Komanda. Et ensuite, du Rumu, ça peut nous aider à sécuriser ces trosseaux. Sinon, on a risque de perdre le contrôle sur cette partie du territoire.
Merci Dieudonné Lossa. Mohamed Boulé, on lance une réaction pour vous qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Kassou Kerevolo, de Goma, au Nord Kivu. Et dernier temps, la situation sécuritaire de cette région du pays devient de plus en plus dégradante. Et à moi, je salue la décision de la MONUSCO de vouloir encore accompagner les efforts de cette lutte de la pacification de cette partie du pays. Pour résoudre ce problème, nous demandons le changement de toutes les unités militaires se trouvant dans cette région, que le gouvernement organise un dialogue social avec les acteurs politiques locaux de la région, dialogue pouvant concrétiser, conscientiser la jeunesse locale à se désolidariser des groupes armés et à intégrer l'armée loyaliste.
Mohamed Boulé, brève réaction.
Merci, brève réaction. Dans ces questions, je note que ce n'est pas... quand il cible la jeunesse et le dialogue et tout ça, mais maintenant, il y a plus de 21 ans, les dialogues, les bargains intercommunautaires ont été organisés. Est-ce que d'après lui, il faut ces menaces-là, les menaces émergentes, est-ce que c'est pour quel type de raisons politiques, économiques ou quoi? C'est ça le problème. Parce que avant d'organiser la jeunesse et pour se désolidariser, nous comprenons que notre jeunesse, il y a le problème qui nous ronge et un peu partout, même dans les grands centres urbains, il n'y a pas d'emploi. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut alors s'adonner à des tueries de ces gens et voir ses parents, nos amis, nos arrière-grands-parents et des villages entiers exterminés? Bon, je crois que au niveau national, même lorsque nous parlons maintenant, il y a quand même un monitoring qui est fait quelque part pour prendre en compte, au niveau de la hiérarchie, au niveau du Conseil national de sécurité, toutes ces questions-là doivent être prises en compte. Moi, je n'ai pas la possibilité de répondre directement parce qu'à l'Assemblée, nous avons nos missions constitutionnelles. En ce qui concerne la MONUSCO, oui, mais la question que nous pouvons nous interroger, moi y compris, 21 ans après, et on a déversé beaucoup de troupes là-bas, il y avait même la brigade d'intervention, et les résultats aujourd'hui, les tueries aujourd'hui, cette menace émergente avec les djihadistes et tout ça, même dans les Basilés, ma province, il y a des tueries, on a procédé à des arrestations avec des hommes en armes, et même dans les Hutuélé aussi, nous sommes en train de nous dire quel est le couloir maintenant pour ces gens, parce qu'on doit noter que mais la localisation des zones touchées par ces terrorismes partant du Hutuélé, Basilé, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, c'est assez dangereux. Et donc, au niveau du Conseil supérieur de la défense et du haut commandement militaire, je crois que ce sont des questions très pertinentes et qu'il faut analyser face à ces menaces et surtout à la menace émergente avec ces tueries djihadistes.
Mohamed Boulé, selon la MONUSCO, la dernière embuscade du convoi de véhicules escortés par les FRDC et même les forces onusiennes avait pour seule mission ou objectif de discréditer l'armée et la MONUSCO pour que la population puisse rompre la confiance envers ces deux partenaires. Cependant, la MONUSCO rassure que malgré cet incident, elle va continuer à apporter son soutien aux responsables de l'armée en essayant de renforcer les dispositifs sécuritaires pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Est-ce que ça peut être un début de solution pour essayer de sécuriser surtout ce tronçon Komanda Luna?
Mais la MONUSCO continue à faire son travail de par l'accord entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo, que j'ai sous mes yeux, qui est signé par notre pays le 4 mai 2000. Et tel qu'on a fait des prorogations pour que la MONUC devienne MONUSCO, elle ne peut pas baisser les bras. Mais il y a quand même des stratégies, parce que la MONUSCO est assez équipée, avec des véhicules blindés, et tout ça avec un blindage assez suffisant, avec des moyens de renseignement, de communication plus performants que nous ne pouvons pas nous prétendre à en disposer, c'est cette collaboration-là, et aussi avec certains pays de la CIRGL, parce qu'il y a aussi, entre les organisations, des mécanismes pour éviter ces histoires. Mais dès lors qu'on trouve des rebelles ou des natifs parmi ces mercenaires qui viennent des pays de l'Est, qui on parle qu'il y a des Kenyans là-dedans, des Érythréens, des Soudanais, des Ougandais, etc., ça pose quand même un problème, malgré le système, notre diplomatie, ça pose un problème.
Merci.
Et des voisinages avec tous ces pays.
Merci Mohamed Boulé, Gracien Lézé, Nicolas Iratchan. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vais vous donner à chacun 30 secondes pour conclure. Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous pour améliorer la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri?
Il faut savoir que la MONUSCO vient en appui à la RDC. Ok, les problèmes de la RDC, il faut les traiter d'une façon globale. En fait, il faut renforcer la gouvernance de notre pays, il faut la responsabilité dans la gestion des affaires d'État, il faut continuer à réformer l'armée et nos forces de sécurité, il faut aussi interpeller la communauté internationale par rapport à ces forces négatives qui existent là. Les FDLR, les ADF, tous n'appartiennent pas à la RDC. Donc il y a les groupes armés qui opèrent, mais aussi c'est parce qu'il n'y a pas une bonne gestion dans les affaires ou qui fait qu'il y a des chômages et d'autres différences. Et donc, il faut une responsabilité totale dans la gestion des affaires de l'État.
Dieudonné Lossa, votre conclusion.
Doter les FARDC avec les moyens logistiques conséquents et renforcer leurs effectifs afin de couvrir la province de l'Ituri, que le gouvernement congolais revoie son accord avec la MONUSCO si sa présence continue à être nécessaire, importante pour la RDC, afin de définir les responsabilités de chacun. Nous demandons également le rétablissement rapide de le trafic sur la RN4, car si ça traînait la population qui est concentrée à Komanda ou à Luna, sont déjà à danger parce que ils ne sont pas loin des ADF qui ont causé tous ces torts que nous connaissons, mais aussi il y a un risque des épidémies qui puissent éclater dans la zone. Mais également, nous demandons qu'on puisse assister les affaires, les déplacés, les femmes à cette qui sont à ce moment dans des conditions différentes à travers la province de l'Ituri. Opérationnalisation de DDRCS, désignation des animateurs provinciaux serait également une question importante à ce moment. Mais sans oublier que l'armée doit continuer avec les enquêtes au sein de l'armée afin de dénicher tous ceux-là qui sont impliqués de près ou de loin dans cette histoire, mais aussi tous ces complices qui, en l'Ituri, doivent être poursuivis.
Merci Dieudonné Lossa. Mohamed Boulé, en 30 secondes, votre conclusion.
En 30 secondes, je dis ceci, le secret pour trouver une solution de paix durable ici en Afrique centrale, en République démocratique Congo particulièrement, dépend de ces puissances-là du Conseil national de sécurité qui ont un droit de veto, parce que si c'est décide à travers l'OCDE, il y a moyen de dégager les moyens nécessaires pour permettre à la République démocratique du Congo de monter en puissance son armée, de rajeunir les effectifs de l'armée.
Merci Mohamed Boulé. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba, Michel Loutete qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Seboujangwe. La mise en onde était assurée par Hippolyte Kiapanga. Présentation et coordination Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.